Benoît Colomba, vous êtes grand reporter à France Inter, co-auteur du livre La Fédé, comment les socialistes ont perdu le Nord. C'est une enquête dans le bassin minier du Pas-de-Calais et plus largement dans la région. C'est un catalogue des grandes et petites affaires qui touchent quelques barons socialistes, les Cucheda, d'Allongeville, Mélic et d'autres. Alors première question, quel est le point de départ de ce travail et comment vous avez enquêter sur place?
En fait, ça fait très longtemps qu'avec mon confrère David Servenay, nous nous intéressons à la vie politique et à certains dysfonctionnements dans le bassin minier et dans le Pas-de-Calais en particulier. Et notamment, nous avions chacun dans nos médias respectifs, c'est-à-dire moi sur France Inter et lui sur le site internet Rue 89, nous avions particulièrement enquêté sur le logement minier et notamment les rapports des chambres régionales des comptes qui mettaient en avant d'importants dysfonctionnements sur les différentes structures chargées de s'occuper du logement minier. Et donc, de fil en aiguille, nous avons voulu essayer de comprendre, de voir ce qui se cachait derrière, quels étaient les personnages clés, parce que derrière le logement minier, on retrouve notamment Jean-Pierre Cucheda, qui aujourd'hui est rattrapé par un certain nombre de dossiers judiciaires.
Alors, ce livre, la Fédé, fait suite à un papier qui est paru dans le magazine Les Inrocs, un papier qui a été attaqué en diffamation et vous avez perdu ce procès.
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, nous avons été condamnés à 1 euro de dommages et intérêts. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons publié cet article dans les colonnes des Inrocuptibles, et en fait, nous révélions des déclarations sur procès verbal faites par Gérard d'Allongeville, déclarations dans lesquelles il faisait un certain nombre d'accusations qui concernaient notamment un possible financement politique. Donc voilà, nous avons révélé ces éléments-là avec la prudence nécessaire, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que Gérard d'Allongeville déclare cela sur procès verbal que c'est forcément vrai, mais il nous a semblé intéressant d'en faire état parce que Gérard d'Allongeville a été un acteur important du système et de la vie politique locale. Et en remettant en perspective ces déclarations, parce que derrière ces accusations de d'Allongeville, il y a tout un paysage économique des sociétés, des sociétés d'économie mixte, des renvois d'ascenseurs entre élus et entreprises. Et donc nous avons révélé ces éléments-là que nous avons qualifiés de potentielles bombes judiciaires pour le Parti Socialiste, parce qu'effectivement, tout d'un coup, ça a jeté une lumière assez noire sur le climat politique local. Il faut quand même préciser que Gérard d'Allongeville a lui-même été renvoyé devant le tribunal correctionnel et qu'il y a, au moment où je vous parle, des investigations qui sont en cours pour vérifier ces accusations.
Vous avez perdu, mais vous n'avez pas, vous, fait appel, hein?
Alors, nous avons perdu parce que, en fait, le tribunal a considéré qu'il y avait un lien qui était fait entre les déclarations et les accusations de Gérard d'Allongeville et la Fédé, donc la Fédération PS du Pas-de-Calais, et que ce lien n'avait pas à être fait dans ces accusations. Nous aurions bien aimé faire appel, effectivement, avec David Servenay, mais en l'occurrence, le journal Les Inrocuptibles, pour qui nous avons publié cet article, ne le souhaitait pas, donc l'affaire en est restée là.
Et en ce qui concerne ce livre, alors La Fédé, hein, qui est paru il y a 5-6 mois, pas de poursuite judiciaire cette fois-ci?
Écoutez, il y a une plainte qui a été déposée notamment par des acteurs du logement minier, donc nous verrons bien ce que ça va donner. Simplement, nous, notre livre est basé sur des documents, des rapports des chambres régionales des comptes, des témoignages, des sources judiciaires. Nous, notre objectif, ça n'était pas de jeter à la vindicte des noms, jeter des anathèmes sur tel ou tel. Simplement, on a voulu comprendre un système et comprendre comment on en est arrivé là par rapport à une situation politique aujourd'hui qui est très délicate pour le Parti Socialiste, avec des scores du Front National qui sont très importants, et évidemment il y a la situation à Hénin-Beaumont en particulier, et raconter l'ascension politique et d'une génération, celle des Cucheda, des Mélic, Percheron, et qui a pris le pouvoir dans les années 70 et qui, en tout cas pour certains de ses élus, a peut-être connu l'ivresse du pouvoir, justement. Et donc, comment est-ce que dans une situation où il n'y a pas assez de contre-pouvoir au niveau local, qui soit militant, politique, eh bien, comment est-ce qu'on en arrive à des situations, justement, avec des affaires judiciaires, parce qu'aujourd'hui, il y a de multiples procédures qui sont en cours. Donc, c'est ça qu'on a voulu essayer de comprendre et de raconter.
Le livre La Fédé, en tout cas certains de ses éléments, se lisent presque comme un polar, hein, détournement d'argent, distribution de billets dans les cages d'escalier des HLM, fausses cartes électorales, on parle même d'incendie, un peu de mafia aussi, mais finalement ça reste assez prudent, hein, sur ce qui est, il me semble, le cœur du sujet, c'est l'existence ou non d'un système de financement occulte du Parti Socialiste ou de ses élus, hein, via les attributions de marché public.
Oui, bah, ça, ce sont les accusations de Dallongeville, donc nous verrons bien ce qu'il en restera. Nous, nous documentons ce qu'on peut documenter. Bon, par exemple, on explique que certaines pratiques locales voulaient qu'on verse une partie de sa cotisation en argent liquide, ce qui est quand même assez particulier. Alors, la commission d'enquête interne du Parti Socialiste a mis en avant le fait qu'à la section de Liévin, il y avait 120 000 euros qui étaient dans les caisses. Donc évidemment, ce sont des pratiques qui peuvent paraître étonnantes. Nous avons le témoignage d'une ancienne militante à Courrières qui, elle, parle d'une caisse noire en expliquant qu'elle-même devait verser de l'argent en liquide et qu'elle pense que ça servait à faire vivre le parti. Après, de là à dire qu'il y a un système mécanique et hiérarchisé, ça c'est une autre affaire. Simplement, je rappelle que en ce moment même, il y a deux informations judiciaires qui ont été ouvertes par le parquet de Lille. Ce sont des enquêtes en cours. Elles ont été ouvertes pour favoritisme, abus de biens sociaux, et elles concernent toute la galaxie du logement minier qui est en relation directe avec les élus, donc des sociétés comme, donc on en parle dans le livre bien évidemment, Adevia, Soginorpa, Pas-de-Calais Habitat, etc. Donc la centrale foncière également régionale, donc voilà, c'est un petit peu des espèces de poupées russes qui sont tout autour et qui dessinent le paysage du logement minier au niveau local. Et puis par ailleurs, il y a une autre enquête, donc là cette fois qui est au stade de l'enquête préliminaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de juge d'instruction qui enquête en ce moment là-dessus, mais il y a la police judiciaire de Lille, et ces fonctionnaires de police sont en train justement d'enquêter pour savoir si, oui ou non, il y a un financement illégal de la section PS à Liévin notamment, et est-ce qu'il y a eu ou pas des irrégularités dans les marchés passés dans le Pas-de-Calais. Parce que c'est ça qui est quand même assez sidérant, ce qui ressort notamment de ce qui s'est passé à Hénin-Beaumont, à travers la procédure judiciaire. C'est les liens entre la mairie, les responsables d'entreprises, comment certains chefs d'entreprise étaient carrément rackettés, hein, ils le disent, hein, pour obtenir certains marchés, et avec parfois des violences, hein. Il y a des témoignages de personnes qui sont violentées parce qu'on leur réclame de l'argent, et on le raconte dans le livre, sur le portable d'un gros bras qui a été actionné, on a retrouvé le numéro de portable de quelqu'un lié au grand banditisme. Donc c'est vrai que tout ça est assez inquiétant et dessine un paysage finalement assez délétère. Après, savoir si ça a été généralisé, ça c'est l'enquête judiciaire qui le dira uniquement.
Vous en avez parlé, les déclarations de Gérard Dallongeville, ex-maire de Hénin-Beaumont. Hein, il a témoigné aussi au travers de deux bouquins, Rose Mafia 1 et 2. Alors quel crédit vous accordez aux déclarations de M. Dallongeville et puis de ses témoignages dans ces bouquins ?
Moi, je pense que c'est un témoignage à prendre avec prudence, parce que, en fait, Gérard d'Allongeville est quand même dans une stratégie où il a tendance à s'exonérer de ses propres responsabilités. Donc, par effet mécanique, il a tendance à imputer aux autres personnes la majeure partie de ce que lui aurait pu éventuellement faire. Bon, quand il y a eu une perquisition à la mairie d'Hénin-Beaumont en avril 2009, où les enquêteurs ont trouvé 13 000 euros en grosse coupure dans le coffre-fort de son bureau, Gérard d'Allongeville a expliqué pendant très longtemps qu'il ne savait pas du tout d'où venait cet argent avant, au bout d'un moment, en changeant de stratégie, de dire que c'était l'argent du Parti Socialiste. Donc, d'un côté, je pense qu'il faut être prudent. De l'autre, il faut, et c'est encore une fois ce que sont en train de faire les enquêteurs, vérifier ces éléments, parce que ils ne peuvent pas, tout ce que dit d'Allongeville ne peut pas non plus être balayé d'un revers de main, dans le sens où c'est un pur produit du système. Donc il connaît bien les rouages de l'intérieur, il a eu des relations extrêmement troubles avec des intermédiaires véreux qui sont cités dans le dossier d'Hénin-Beaumont, et donc qui, encore une fois, seront jugés hein, devant un tribunal. Donc, ayant été tout de même adoubé par les principaux personnages politiques et il y a une connaissance aiguë, y compris à son usage, pour son usage personnel, de tout ce fonctionnement assez opaque entre élus et entreprises, à ce titre-là, ce qu'il indique doit être vérifié.
Toujours en compagnie par téléphone de Benoît Colomba, grand reporter à France Inter, co-auteur du livre La Fédé. On va écouter dans un instant la dernière partie de cet entretien réalisé hier après-midi. Radio PFM, c'est une radio arrageoise, et donc une question un peu sur l'arrageoise dont le nom apparaît dans le bouquin, c'est Catherine Génisson, hein, qui a été première secrétaire de la fédération du Parti Socialiste du Pas-de-Calais. Alors comment vous voyez un petit peu le rôle de Catherine Génisson là-dedans?
Écoutez, Catherine Génisson s'est toujours défendue, a toujours défendu Jean-Pierre Cucheda, a toujours dit qu'il n'y avait absolument aucune malversation concernant la Fédé ou l'environnement économique local. Notre problème, ça n'est pas Catherine Génisson, si vous voulez, parce que, si vous voulez, Catherine Génisson, elle hérite de quelque chose qui existe déjà, à savoir, et c'est tout le problème, une importance politique démesurée de la fédération du Pas-de-Calais vis-à-vis du PS. Alors, c'est en train de changer, évidemment, là, le vent a un petit peu tourné, mais ce qu'on explique dans le livre, c'est que pendant de nombreuses années, la rue de Solferino, donc la direction du PS, était parfaitement au courant qu'il y avait des dysfonctionnements importants, par exemple sur le système des fausses cartes. C'est-à-dire que la Fédé du Pas-de-Calais affichait un nombre considérable d'adhérents, jusqu'à 10% des adhérents. Enfin, c'était l'une des plus grosses Fédés de France, vraisemblablement ne correspondait pas du tout à la réalité. Mais ça, quel était l'objectif poursuivi? Ça permettait de peser sur les débats au sein du PS. Et on a vu par exemple au congrès de Reims en 2008 que Martine Aubry a été élue à une centaine de voix près et encore extrêmement contestée. Bon, on voit bien que pendant toutes ces années, ça a été un rapport de force et à l'avantage de la Fédé du Pas-de-Calais, où à un moment, on explique dans le livre comment le Parti Socialiste souhaite justement faire une opération de nettoyage des fichiers des militants dans les différentes fédérations, parce qu'il n'y a pas que la Fédération du Pas-de-Calais qui est concernée. Ben, on explique que à ce moment-là, comme par enchantement, la Fédé du 62 échappe à cette opération de nettoyage. Donc le problème aujourd'hui, c'est ça, c'est de voir Quelles sont les perspectives? J'indique tout de même que la Fédération du Pas-de-Calais a été placée sous tutelle par le Parti Socialiste. Donc là, quand même, c'est quand même un désaveu au minimum du fonctionnement en interne de cette fédération.
Dernière question, Benoît Colomba. Vous avez parlé de la montée du Front National dans le Pas-de-Calais. Et justement, est-ce qu'on ne vous a pas accusé, à travers votre enquête, de faire le jeu du Front National qui dénonce le tous pourri au niveau politique?
Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend souvent, mais y compris d'ailleurs dans la bouche de Jean-Pierre Cuisuda, il a pu le dire à certains moments, accusant les journalistes d'en faire trop et de faire monter le Front National, mais le problème n'est pas là. Faire le jeu du Front National, mais le Front National, il est déjà là, c'est bien le problème. Et pourquoi est-ce qu'il a progressé justement sur ces terres ouvrières, ce bastion du socialisme? C'est bien justement parce que il a surfé sur cette vague-là en pouvant juste instrumentaliser les affaires. On voit bien d'ailleurs dans son discours, Marine Le Pen et Alain Beaumont utilisent les affaires dans son discours politique pour tenter de proposer une offre politique différente en disant voilà, regardez de l'autre côté du prisme politique ce qu'il en est, et bien nous ça ne sera pas comme ça. Donc on voit bien que en fait c'est déjà utilisé par le Front National. Je ne vois pas en quoi le fait de décrire ça, de le documenter, nourrirait encore plus le Front National. Moi je pense que c'est l'inverse, et c'est bien le problème. C'est le fait pendant des années d'avoir fait taire, à mon sens, les voix discordantes au sein même des sections PS locales, parce qu'il y a eu de nombreux militants qui sont montés au créneau pour justement dénoncer le manque de démocratie interne, le fait qu'il n'y avait pas de renouvellement de génération, le système des fausses cartes dont je parlais tout à l'heure. C'est justement le fait d'avoir mis tout ça sous le boisseau qui, à mon sens, a fait monter le Front National. Et aujourd'hui, on n'en est plus à se demander si il faut dénoncer ou pas dénoncer. On révèle dans notre livre une note de la Fédération, alors cette fois du Nord, qui date de 2010 et qui explique tout simplement que voilà, les terres, ce ne sont plus des terres socialistes et que s'il n'y a pas un réel sursaut, le parti va vers une de sévères désagréments. Donc on est un petit peu à la croisée des chemins, je dirais. Et quand on regarde à la loupe les derniers scores du Front National lors des dernières législatives, il y a justement un effet un peu trompeur, parce que quand on regarde dans le détail, on voit que le Front National a fait des scores très importants de plus de 40% dans de nombreuses circonscriptions et jusqu'à 56% à Hénin Beaumont.
Benoît Colomba, grand reporter à France Inter, co-auteur avec David Servenet du livre La Fédé, comment les socialistes ont perdu le Nord. C'est aux éditions du Seuil et c'est paru il y a de cela quelques mois. A noter que après le Pas-de-Calais, Benoît Colomba s'est intéressé à la Polynésie. Son livre sur Gaston Flosse et l'affaire JPK sort cette semaine. Dans un instant, on va retrouver la partie agenda d'Info 30 sur Radio PFM.